L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Vous recevez ce matin le procureur général, notamment pour évoquer ses priorités, priorités qu'il a donc données lors de l'audience d'installation en début de semaine.
Oui, Camille Mioncioni, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme le rappelait Nicolas il y a un instant, en début de semaine, ont eu lieu plusieurs audiences d'installation avec du personnel récemment arrivé en Nouvelle-Calédonie, ce qui était votre cas, puisque vous êtes mis au travail, évidemment, dès votre arrivée en juin dernier, mais vous n'aviez pas encore procédé à cette installation officielle qui a eu lieu donc en début de semaine. On a senti lors de cette cérémonie et lors de ces audiences d'installation un peu de soulagement de la part de la justice de voir du personnel arriver, même si c'est pas encore pour combler tout l'ensemble des postes vacants. Hein, c'est bien ça ?
Exactement. Alors, en tout cas, merci pour votre invitation. Et d'ailleurs, rappelez que c'est une tradition de la justice. C'est pas seulement une tradition d'ailleurs. C'est inscrit dans la loi, dans le code de l'organisation judiciaire, que les magistrats qui arrivent dans une juridiction doivent être installés officiellement pour les présenter à la société à laquelle ils vont désormais appartenir. Donc cette audience a eu lieu le 27 octobre dernier, et nous avons procédé à l'installation des nouveaux magistrats, et d'ailleurs dans moi-même, puisque j'ai été officiellement installé à cette occasion, tout comme le premier président de la Cour d'appel. C'est une situation assez inédite, nous sommes arrivés quasiment au même moment. Oui, il y a un certain nombre de postes qui ont été pourvus à cette occasion, notamment au parquet, où le procureur de la République attendait l'arrivée de ses nouveaux collègues depuis un certain temps. Ils étaient en sous-effectif, et ce renfort qui sont arrivés aujourd'hui apporte vraiment de l'air. Alors tout n'est pas complet, puisque au siège, il y a encore des postes vacants, notamment à l'instruction, où il y a deux cabinets sur trois, pour lesquels il n'y a pas de magistrat nommé à ce jour.
Mais c'est en cours d'affectation éventuelle. Enfin, il y a des mouvements perpétuels et récurrents au sein du personnel de justice.
Tout à fait. En tout cas, on garde l'espoir que dans les prochains mouvements, ces postes qui sont restés vacants puissent être pourvus. Je voudrais juste ajouter aussi qu'il y a les magistrats, mais il y a aussi le personnel de greffe. Et là, au niveau des personnels de greffe, il y a quelques difficultés. Et là aussi, nous espérons que dans les prochaines semaines, prochains mois, les prochains mouvements, on puisse avoir du renfort côté greffe, parce qu'il n'y a pas d'activité judiciaire s'il n'y a pas de personnel de greffe pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les magistrats.
Alors, monsieur le procureur général, parlons un peu de la politique, on va dire, pénitentiaire, avec trois sujets. La condamnation par le tribunal administratif de Nouméa des conditions de détention au Camp Est, hein, pour faire bref. La proposition que vous avez faite dans votre discours d'installation de la création d'un centre semi-ouvert. Et évidemment, la future prison attendue en Nouvelle-Calédonie. Finalement, c'est un seul et même sujet. On va commencer par cette prison dont l'annonce avait été faite par le garde des Sceaux lors de sa visite d'Éric Dupond-Moretti il y a quelques années. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier ? Est-ce que les choses avancent ou est-ce que pour l'instant on est un peu au creux de la vague ?
Vous avez raison, ce sont des facettes d'un même sujet. Le nouvel établissement, la décision du tribunal administratif en référé et les annonces que vous évoquez, que j'ai faites lundi dernier. Le nouvel établissement ne fait pas débat. Il y a un consensus, et c'est acquis, et malheureusement depuis très longtemps, il est acquis qu'il faut un nouvel établissement pénitentiaire pour Nouméa, pour la Nouvelle-Calédonie de façon générale.
Le principe est acquis, mais on a l'impression que le dossier n'avance pas.
Alors le dossier n'avance pas, du moins le dossier est soumis à tous les aléas du fonctionnement institutionnel et politique. Parce que pour pouvoir acter, il faut des budgets, il faut des majorités politiques, etc., etc. Donc, je pense que ce projet, qui ne souffre, encore une fois, d'aucune discussion sur le principe, sur son utilité, est aujourd'hui soumis aux aléas, des débats, des discussions et des disponibilités budgétaires aussi. Donc je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, si ce n'est que le projet reste acquis, reste à finaliser avec la cession de la parcelle qui a été identifiée au profit de l'État, l'engagement des études, le vote des budgets et ensuite la mise en œuvre de ce projet.
Alors dans ce contexte et cette attente finalement, parce qu'on sait que ça prendra plusieurs années avant de voir une nouvelle prison émerger, vous avez proposé la création d'un centre semi-ouvert pour une centaine de détenus. Alors là aussi, hein, c'est des coûts supplémentaires, il faut trouver un terrain, ce sera probablement long. Et est-ce que c'est aussi une manière, non pas de désengorger, mais en tout cas d'éviter une surpopulation qui aujourd'hui pose problème au camp Est ?
Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs et observateurs de la situation pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie font consensus sur le fait que l'État de la prison du camp Est est vraiment pas acceptable en termes de surpopulation, en termes de conditions, en termes de conditions, en termes de conditions de détention des personnes et surtout des conditions de travail des personnels qui y travaillent. Donc ce constat nous amène à nous poser une question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste en l'état jusqu'à l'arrivée d'un nouvel établissement, dont on vient de parler, avec des échéances à peine établies, à peine identifiées, ou alors, en attendant ce nouvel établissement, on trouve une solution pratique, adaptée, et un centre de semi-liberté, c'est pas la liberté, c'est un centre de semi-liberté pour préparer la sortie pour une certaine catégorie de détenus qui n'ont pas besoin, qui pourraient bénéficier d'un accompagnement avec de l'insertion professionnelle, avec de la formation, ou alors ce qu'on appelle aussi du placement extérieur. L'idée, c'est de ne pas attendre encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, la sortie de terre de cet établissement pour essayer de régler cette situation qui doit être réglée. Parce que ce n'est pas normal que l'État soit condamné.
Et ça, c'est un projet qui peut voir le jour assez rapidement ?
Ça, c'est un projet qui peut voir le jour assez rapidement. J'ai rencontré la maire de la ville de Nouméa, qui a proposé un espace, un ancien établissement scolaire désaffecté. Alors, il faudra quelques moyens, bien sûr, mais pas autant que les moyens pour la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire.
Alors, est-ce que les juges, lorsqu'ils ont affaire dans un procès, tiennent compte des conditions d'extension pour prononcer leur peine ? Est-ce que les conditions de détention étant compliquées, est-ce qu'ils hésitent parfois à prononcer des peines de prison ou est-ce que ce n'est pas de leur ressort ?
Ce n'est pas de leur ressort. Quand un juge a décidé de la peine qu'il faut prononcer, il regarde la nature des faits, il regarde la personnalité du condamné. En aucun cas, les conditions d'incarcération ne viennent influer sur la décision du juge, parce que sinon, on n'enverrait plus de condamnés au camp Est, qui est plein depuis très très longtemps. Mais en tout cas, on sait quelles sont les difficultés, on en est conscient, mais le juge ne se prononce pas en fonction de cette situation.
Monsieur le procureur général, depuis les émeutes, on sait que le système judiciaire en Calédonie a fonctionné à plein régime, hein, qu'il a été très très sollicité. Est-ce que la politique pénale a évolué ces derniers mois ? Est-ce que ça a obligé peut-être le personnel judiciaire à adopter la politique pénale ?
Alors, il y a une attention accrue à un certain nombre d'infractions, en particulier tout ce qui a trait à l'atteinte aux forces de l'ordre. Ces événements de 2024 ont été une sorte de révélateur, une sorte de désinhibition qui font qu'aujourd'hui, il y a régulièrement des atteintes aux forces de l'ordre. Donc une attention particulière et donc une réponse assez, assez rapide et ferme pour tout ce qui concerne les atteintes aux forces de l'ordre. Et c'est ajouté à cela tout ce qui concerne les menaces aux élus, les menaces aux personnalités publiques en lien avec le climat général du territoire.
Alors vous avez publié même sur ce sujet-là un communiqué de presse commun avec le procureur de la République, ce qui est assez, quand même assez rare. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des craintes ou en tout cas vous voyez un certain nombre d'affaires surgir sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant ?
Ça tient de cette préoccupation que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes dans une période particulière, avec une particulière sensibilité. Il ne faudrait pas que cette sensibilité, que cette tension qui existe sur le territoire, débouche sur des comportements qui pourraient amener à nouveau des situations graves d'atteinte aux personnes, d'atteinte aux biens. J'ai voulu alerter avec le procureur de la République en disant « Attention, nous sommes extrêmement vigilants et extrêmement ferme sur tout comportement, toute attitude qui pourrait être de nature à créer du désordre ou à inciter à la violence ou à la destruction des biens d'autrui.
Y compris sur les réseaux sociaux, on sait que les messages parfois se multiplient sans aucun filtre.
Y compris sur les réseaux sociaux, avec la difficulté du contrôle sur les réseaux sociaux, nous avons sur le territoire des unités qui veillent à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais vous savez que c'est un univers tout entier, les réseaux sociaux, et que les menaces qui sont préférées ici peuvent provenir des contrées assez lointaines, mais évidemment cette attention porte également sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux.
Alors lors de votre discours d'installation, parmi les autres priorités de votre mission, vous avez évoqué la poursuite de la lutte contre les violences intrafamiliales ou encore la délinquance financière. Il y a de nombreuses affaires qui sortent ou c'est juste un point de vigilance particulier ?
Alors, c'est une préoccupation s'agissant des infractions économiques et financières. Il faut se rendre compte que ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, c'est pas seulement de l'argent qui s'évapore. C'est aussi une économie parallèle, parfois, mais c'est aussi une source de désordre sur le plan économique. Ça crée des déséquilibres, y compris sur le plan économique. Donc, on doit y veiller, surtout lorsqu'il s'agit d'argent public, parfois. On doit y veiller autant qu'on veille sur la délinquance du quotidien, celle qui touche monsieur et madame tout le monde. Donc, les atteintes à la probité, les questions économiques et financières restent une priorité importante. Et nous avons la chance d'avoir ici des institutions qui travaillent sur ces champs-là, la Chambre territoriale des comptes, l'autorité de la concurrence, puis les services de police judiciaire. Il s'agit de les mobiliser, y compris sur ces questions-là.
Et les violences intrafamiliales, dont on sait qu'elles sont souvent en nombre important ?
Alors les violences, c'est le fléau national, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, mais sur toute la France. Mais c'est une mobilisation qui date déjà d'il y a quelques années, et qui ne faiblit pas, puisque malheureusement, ici comme ailleurs, les violences intrafamiliales ne faiblissent pas, bien au contraire, notamment par le fait de la libération de la parole. Les faits sont plus souvent dénoncés qu'il y a quelque temps et nous y sommes particulièrement attachés à répondre à ces violences parce que ce que ça révèle, c'est évidemment la vie des femmes, des hommes, des femmes et surtout des enfants, mais aussi cette chose insupportable qu'une partie de la population ne soit pas prise en considération. C'est une humiliation qu'une femme dans une relation conjugale puisse faire l'objet de violences de la part de son conjoint, avec des conséquences induites sur les enfants bien souvent.
Alors la justice est l'un des acteurs de ce dossier, mais elle travaille aussi avec les institutions et avec les associations. C'est une mobilisation plus large que simplement l'appareil judiciaire sur ces questions-là qu'il faut entamer.
Ça ne peut pas être que de la justice. La justice a son rôle, a son mot à dire, et elle le dit, mais c'est effectivement une mobilisation des collectivités publiques, et il y en a ici des collectivités qui sont mobilisées, la province sud, la ville de Nouméa et d'autres, mais aussi des associations, parce qu'il faut accompagner ces victimes. Il faut aussi s'intéresser aux auteurs, parce qu'il y a des choses à construire, voire à reconstruire, peut-être même à déconstruire des schémas de fonctionnement, des schémas de raisonnement qu'il faut déconstruire. Donc il faut un travail judiciaire de sanction, de répression, mais aussi une prévention et un accompagnement à la fois des victimes, mais aussi des auteurs.
Monsieur le procureur général, ça fait donc 4 mois que vous avez pris vos fonctions en Nouvelle-Calédonie. Vous avez l'impression d'avoir pris la mesure, finalement, de la situation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et du rôle que la justice peut jouer. Il y a parfois des décisions qui ne sont pas comprises, que ce soit d'ailleurs en Calédonie ou en métropole. Il y a toujours ce besoin d'explication parce que la justice a ses propres codes qui ne sont pas faciles toujours à partager avec le grand public.
C'est l'une de mes convictions que j'ai réaffirmée lundi dernier. La justice ne peut pas bien faire son travail si ses décisions ne sont pas comprises. Mais c'est un chantier énorme. Et donc, nous devons faire la pédagogie des décisions. Cela ne veut pas dire que tout sera parfaitement compris, y compris les possibilités de contestation. C'est prévu dans la loi. Mais on doit intégrer ce que j'appelle, moi, la réception de la décision par le corps social lorsqu'on est en situation de décider. Quand je prends une décision judiciaire, je dois aussi m'intéresser à la façon dont cette décision va être reçue et donc faire en sorte qu'elle soit comprise sur le fond et sur la forme.
Donc ça nécessite de l'explication bien souvent.
Il faut de l'explication, il faut de la pédagogie, et nous le faisons. Le procureur de la République communique souvent sur les affaires en cours, mais ça va même plus loin, puisqu'aujourd'hui, une réflexion au plan national, la Conférence nationale des procureurs généraux, réfléchit à une modification de ce fameux article 11 du Code de procédure pénale, qui fixe le cadre de l'intervention du procureur à la pluie pour expliciter des décisions sur les affaires en cours, pour le réécrire, cet article, pour offrir un cadre d'explication, de communication sur les décisions de justice. Et d'ailleurs, on le voit ce temps-ci, l'actualité nous en a offert beaucoup d'exemples, où beaucoup de magistrats, et pas seulement du parquet, je pense en particulier au président du tribunal judiciaire de Paris, qui est monté au créneau pour apporter des explications sur les décisions qui ont pu être prises.
Camille Miancioni, procureur général, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
C'est moi qui vous remercie.